Mangaka Story. L'émission qui parle de manga, mais pas que. À la rencontre des éditions IHMO. L'arrivée du manga en France depuis plus de 30 ans dorénavant est le fruit du travail de nombreuses maisons d'édition. Certaines ont pignon sur rue et profitent déjà d'avoir beaucoup travaillé dans le domaine du franco-belge ou du comics. D'autres sont le résultat de travail de forcenés, de passionnés qui ont monté leur structure au fur et à mesure, structures qui ont pris de l'ampleur. Cette année, dans Mangaka Story, je vais vous proposer de découvrir ces maisons d'édition qui sont connues des BD-files, qui sont connues des librairies de bande dessinée, mais qui mériteraient d'être connues d'un public beaucoup plus large. C'est le cas de cette maison d'édition, IHMO. J'ai eu la chance de rencontrer Benoît Maurer lors du festival de la bande dessinée d'Angoulême, et je le remercie car il s'est prêté au jeu de l'interview alors qu'il était largement débordé sur son stand. Je vous propose tout de suite de découvrir Benoît, de découvrir l'histoire de sa maison d'édition, de découvrir sa passion, de découvrir également une partie de son catalogue, parce que ce que j'aime énormément chez lui, chez IHMO, c'est la grande variété des titres qui peuvent s'adresser aux enfants, des titres qui peuvent s'intéresser aux personnes qui sont fans d'Eroguro, des personnes qui seraient intéressées par découvrir du manga underground. On a vraiment une belle variété, c'est génial. On se retrouve juste après Benoît.
Bonjour, je suis Benoît des éditions IMHO. On est un éditeur spécialisé dans le manga indépendant. On fête nos 20 ans cette année. On a connu une très belle année et de très belles années sur les trois dernières années passées. Le présupposé de base des éditions IMHO en 2003, c'était tout simplement de se dire que les lecteurs de Naruto allaient évoluer dans leur goût et allaient découvrir d'autres auteurs tout en continuant à lire du manga. Donc c'est vrai que notre catalogue est plutôt axé sur des livres plutôt destinés à de jeunes adultes, avec des choses de l'horreur, de l'action, un peu d'érotisme, pas mal de gore aussi. Ça reste quand même une des composantes assez importantes de notre catalogue. On a mis un peu de temps et un peu de mal à l'installer, puisqu'en 2003, c'était le deuxième boom du manga. C'est à ce moment-là que s'est créé les Lézards Noirs, Kihun, que tous les grands groupes ont créé leur label comme Kurokawa. Aujourd'hui, on est vraiment sur le troisième impact, où voilà, le lectorat continue de lire du manga. C'est la troisième génération qui lit du manga. Les personnes sont plus nombreuses, elles sont plus curieuses, et donc voilà, ça fait 3 ans, depuis en gros le Covid, qu'on a plus de facilité à présenter notre travail. On est plutôt sur des livres qui sont un petit peu plus chers, dans le sens où c'est des formats A5, donc 15 cm sur 21, qui sont généralement entre 14 et 18 euros, sur des auteurs qui ont des styles graphiques différents. Et donc le but, c'est vraiment de présenter ce type de travail, de recherche à la fois graphique et de recherche sur la narration pour ces auteurs-là. Alors,
cette recherche, elle se fait comment ? Vous cherchez ces auteurs-là, comment est-ce que vous arrivez à les découvrir ? Si on prend l'exemple de Shintaro Kago, quand même, qui a un trait vraiment à la fois magnifique, puissant, et qui est dans un registre qu'on pourrait qualifier de pas tout public.
C'est vrai que Kago, c'est un peu particulier dans le sens où on l'a découvert en scantrad. Il y a eu un moment pas mal de scantrad justement sur des auteurs qui étaient peu connus du grand public, que ça soit au Japon ou dans d'autres pays. Donc on l'a découvert entre guillemets de manière pirate, puisque voilà, c'était du scantrad de fans qui avaient commencé à traduire ces bouquins. Et c'est vrai que la particularité au Japon sur ce genre, les auteurs que nous on publie, à part peut-être Atsushi Kaneko et Maruo qui sont vraiment faciles à trouver en librairie, on est vraiment sur des choses qui sont plus délicates. Donc voilà, même quand on va en librairie au Japon, on n'a pas forcément de facilité à trouver ce type d'auteur. Donc c'est vrai que généralement, c'est maintenant les réseaux sociaux, les contacts entre éditeurs, on se connaît un peu tous et on a des conseils.
Là, on est sur votre stand, il y a du monde partout. Des familles qui sont en train de chercher dans votre catalogue, dans le stand, des produits. Alors c'est très varié, et est-ce que cette variété, c'est un peu l'ADN de votre maison d'édition ?
C'était un choix de travailler des différents styles graphiques. Enfin, moi, ce qui m'intéressait dans la BD, c'était déjà de voir comment des auteurs japonais faisaient des ponts avec la BD européenne. Donc, c'est vrai qu'il y a certains livres, notamment Tsurumaki, qui est vraiment très influencé par la BD européenne. Il y a Atsushi Kaneko, qui est plutôt influencé par la BD américaine, notamment Paul Pope. Donc ça, c'était vraiment un ADN assez fort de notre côté. Et après, on avait cette volonté justement de pas se limiter à un style graphique classique, entre guillemets, type seinen, etc. Et de donner leur chance à des auteurs qui font des recherches différentes, qui présentent de manière différente. Après, ça n'empêche pas que 99% de nos auteurs sont des auteurs japonais, et donc que c'est du manga, et que manga entre guillemets classique, dans le sens où ça reste une BD japonaise vendue au Japon, créée par des auteurs japonais.
Par rapport à ces auteurs japonais, est-ce que vous avez un retour de leur part sur le travail du coup, que vous offrez au lectorat francophone?
Oui, sur certains, ouais. Sur Atsushi Kaneko, on est Ushintaro Kago, Deshi Ino aussi, on a eu quelques retours. Après, c'est vrai qu'il y a quand même maintenant une grosse particularité des auteurs qui ont été travaillés par d'autres catalogues. Donc Atsushi Kaneko a été publié chez Casterman, chez Delcourt. Inyo Asano est surtout publié chez Kana. Mario est publié chez Casterman et chez Les Lézards Noirs. Shintaro Kago est aussi publié chez Hubert. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que comparé au début, en 2003, quand on allait en librairie, les personnes nous disaient « c'est pas du manga, on comprend pas ce que c'est », etc. Là, aujourd'hui, maintenant, on est devenu, entre guillemets, sur des auteurs qui sont reconnus et qui gagnent des prix à Angoulême, qui gagnent des prix dans des festivals. Voilà, il y a eu une reconnaissance du travail qui a été fait.
Alors là, je vais poser une question qui va peut-être être bête et ou difficile, ça va être au choix. S'il y avait 3 titres parmi tous les talages qu'elle a, on est à la radio, vous le voyez pas, mais la peau vient de soupirer. S'il y avait 3 titres qu'il fallait considérer comme étant vraiment le must du must de votre catalogue, ce seraient lesquels?
Alors, je peux pas me permettre d'émettre un jugement sur les livres que j'ai. S'il y avait 3 titres pour découvrir le catalogue, pour le coup, ce qui sera peut-être plus simple de mon côté, ce sera Un été à Tsurumaki, qui est du coup un livre plutôt axé jeunesse, où on a un jeune auteur japonais très influencé par la BD européenne qui fait des univers un peu fantastiques à la Jules Verne, avec soit des histoires courtes, soit des histoires en un seul volume. Le deuxième titre, ce serait Opus de Satoshi Kon, où là on est vraiment sur un titre patrimonial, entre guillemets, puisque Satoshi Kon est surtout connu dans le monde de l'animation. C'est un ouvrage qui est vraiment super intéressant. C'est un jeune auteur qui essaye de tuer un de ses personnages. Le personnage se rebelle, il fait tomber l'auteur dans sa propre bande dessinée. Et un troisième, plutôt peut-être Shintaro Kago, qui reste nous un de nos auteurs. On a beaucoup travaillé, on a la chance de voir maintenant s'épanouir chez d'autres maisons d'édition, donc ça a l'air d'avoir bien pris. Voilà, après c'est vraiment un choix purement personnel et qui n'engage que moi, je ne vais pas non plus me froisser avec les auteurs qu'on publie.
On comprend bien. Votre maison d'édition, cette variété, qui combiné avec ce que vous disiez tout à l'heure aussi, avec le fait que les éditeurs vous connaissez entre vous, donc il y a ces ponts qui se font. Quels seraient les projets, sans vouloir dévoiler non plus tout ce qui se passe en interne chez vous, quels sont les projets à venir pour 2023-2024?
Alors c'est vrai qu'on va être assez actifs dans le sens où c'est les 20 ans de la maison. On a connu un gros regain d'intérêt sur les 3 dernières années où en gros les livres qu'on avait du mal à présenter ont maintenant trouvé leur lecteur. On a aussi réimprimé l'intégralité du catalogue, enfin quasiment l'intégralité du catalogue. Ça c'est un truc qui est vraiment important pour nous de continuer le travail qui est fait, de grosso modo rendre disponibles toujours les livres. Sur cette année 2023 et 2024, on va travailler un peu plus le patrimoine. On avait essayé de travailler il y a très longtemps, mais on n'avait pas réussi à présenter. Donc là, on va travailler sur des auteurs qui, voilà, des années 50, des années 60, des années 70, pour faire un pont justement avec l'histoire de nos auteurs contemporains qui, voilà, sont liés tout simplement à une histoire du manga qui est moins connue, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à moi. C'est moi qui vous remercie.
Vous l'avez entendu, Benoît Maurer évoque cette année la parution, les rééditions de titres jugés patrimoniaux chez sa maison d'édition. Parmi ces titres se trouve Garden, d'Osamaru Furuya, un auteur atypique, touche-à-tout de la bande dessinée et qui vraiment explore des galaxies artistiques aussi diverses et variées. Cet artiste, lors de ses études aux Beaux-Arts, va toucher d'abord à la peinture à l'huile, puis ensuite la sculpture, le théâtre, la danse buto, l'expression corporelle. C'est à partir de 1994 qu'il va se lancer dans le manga sans rien en connaître. Il ne connaît aucune convention, aucune construction narrative, aucun style d'ailleurs. Et du coup, sa place est toute trouvée pour être publiée dans l'excellente revue Garo. Il s'amuse tout d'abord avec des suites de gags en 4 cases. Il va s'amuser là-dedans, à jouer avec les registres graphiques, à s'amuser avec les différents styles, avec les différents modes, en touchant forcément à l'humour, en touchant à la poésie qui l'intéresse beaucoup, ou en donnant un petit peu dans le frisson. Sa patte, c'est l'humour absurde, les symboles mignons de la culture pop japonaise. Alors, mignons en kawaii, forcément. Donc, ça va être les lycéennes, qui deviennent des objets de fantasmes, les ours en peluche, avec des jolis yeux tout mignons. Et ces références, typiquement en nippon, vont être détournées dans un registre mélangeant humour glauque et bizarrerie. Une publication sortira en 1998 intitulée Shortcuts qui sera traduite aux États-Unis où il y aura quand même un petit succès. Par la suite, Furuya enchaîne différents travaux qui tournent également aussi souvent sur l'univers du lycée avec des choses assez intrigantes, avec l'excellent Cercle du Suicide ou encore le Litchi Hikari Club qui est très très particulier mais qui est vraiment délirant, et surtout en 2013, une mini-série intitulée « Je voudrais être tué par une lycéenne » qui aura une claque magistrale, une histoire malsaine, glauque à souhait, avec un trait hyper soigné. Donc c'est un auteur qui est capable de tout. C'est ça qu'on aime chez lui. En 2001, il sort « La musique de Marie », un manga assez étonnant, en 2 tomes là encore, donc, mais qui sont d'une douceur, d'une mélancolie sublime. Et il est capable après de nous emmener mais sur du trash avec le Hikari Club, enfin, du trash vraiment dégueulasse, avec un petit côté malsain et qui met le lecteur en situation un peu de mateur pervers, parce que c'est vraiment dégueu, mais c'est comme si on se mettait les mains devant les yeux pour pas regarder, mais en écartant bien les doigts pour être sûr de pas rater une petite miette. Il est également capable de dessiner des choses nettement plus standard. Ainsi, en 2019, il est le dessinateur sur l'histoire de l'empereur Akihito, qui est sorti récemment en France. Donc il est vraiment, vraiment capable de tout. C'est un auteur qui est complètement fou, c'est un auteur qui est complètement génial. Et du coup, Iachemo propose de faire redécouvrir au public français le manga Garden. Je vous parlais de bizarrerie, je vous parlais de glauquerie, et ben Garden ici, c'est vraiment le côté sombre d'Uzumu Furuya qui est exploré. Alors c'est un recueil qui comporte 7 histoires. L'adjectif qui me viendrait à l'esprit tout de suite, c'est dire que ces histoires qui sont, voilà, c'est hors normes, c'est barré, c'est sans concession. Forcément, certaines de ces histoires étaient publiées dans Garo. Quand on les lit, on s'en doute très bien. Également dans Manga Erotics. Là aussi, quand on lit ces histoires, on s'en doute très bien. Donc c'est un titre qui est vraiment important pour les otaku français. C'est un titre qui mérite d'être classé en tant que manga de patrimoine. D'ailleurs, Benoît a entièrement raison là-dessus. Alors au niveau des histoires contenues dans ce recueil, vous avez L'origine de la nudité, qui a été publié chez Comic Coup. Les anges suceurs, pareil, dans le même magazine. Celui-ci, rien que le nom, je vous donne à peu près une idée, mais vous verrez bien vous-même. Songe d'un jour d'été, La machine venue de la mer, Le manuscrit de la lune, Au revoir avec le sourire, Petit Amy, qui était, lui, prépublié dans Gallo Magazine. Donc c'est vraiment un auteur qui est exceptionnel, talentueux, et c'est pas le seul qu'on retrouve chez Iachemo. Vous avez l'excellente Junko Mizuno, qui est une artiste qui perçait tout doucement en France, qui, il y a quelques années, on avait eu droit à son adaptation de La Petite Sirène. Elle a un trait qui, alors c'est pareil, c'est très kawaii. C'est un peu quelque chose d'Arthur Depin dedans. Elle fait des séries trash gore kawaii comme personne. Iachemo propose également de découvrir sa version japonisante de Hansel et Gretel, la série Pilou l'apprenti gigolo. Junko Mizuno, c'est un univers. C'est un univers magistral, graphiquement extrêmement surprenant, extrêmement soigné, extrêmement pop. Et heureusement que des éditeurs proposent ce genre d'artistes. Ça tranche vraiment avec la production mainstream. Bien sûr, qui dit Eroguro dit Maruo. C'est Iachemo qui propose aussi La jeune fille aux camélias, qui est une œuvre magistrale de cet auteur immense qui est Seishuro Meruo. C'est aussi chez Iachemo qu'on peut retrouver du Shintaro Kago. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la radio ou sur les podcasts, vous savez que je suis un immense fan de Shintaro Kago. Ville Infrastructure, c'est vraiment excellent. Les Carnets de Massacre, c'est pareil. Le tome 2 des Carnets de Massacre est vraiment l'un des mangas les plus violents trash que j'ai pu lire. La Grande Invasion Mongole, alors là, il se lâche complètement. C'est exceptionnellement barré, graphiquement hyper recherché. C'est beau. C'est beau, c'est trash, c'est malsain, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment du manga comme on aime. C'est du manga comme les détracteurs n'aimaient pas à l'époque, hein, quand le manga est arrivé en France. C'est le manga qui fait que, oui, ça a toute sa place dans l'émission Mauvais Genre de France Culture. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre terme à dire. C'est également chez Iachemo qu'on peut retrouver un manga alors complètement autre, dans un autre registre, comme Souvenir de la mer assoupie de Shinya Komatsu. Komatsu, c'est un trait d'une beauté, c'est sublime, c'est souvent couleur en plus, ce qui est assez rare dans le manga. Et Iachemo publie l'intégralité du petit recueil Souvenir de la mer assoupie en couleur. C'est un trait qui est proche de la ligne claire, c'est tout rond, c'est tout en douceur, c'est beau, c'est apaisant, c'est une lecture qui est apaisante, qui est hyper sereine. L'histoire, elle est trop belle, elle est vraiment trop trop belle. De cet auteur, on a également Tohu Bohu, qui est pareil, c'est magnifique. Y a rien à acheter en fait chez Komatsu, c'est beau en fait. On prend une bouffée de poésie quand on lit Komatsu, c'est hallucinant. Alors si vous voulez prendre l'effet inverse de ce que je viens de vous raconter à l'instant, vous pouvez aussi retrouver du Asano chez Yamashio, La fille de la plage, un titre très particulier dans la bibliographie d'Asano, parce que c'est vraiment une histoire de perdition entre deux adolescents qui vont se livrer à des orgies sexuelles monstrueuses, aller très très loin, avec une fin qui tient en plus la route. C'est en deux volumes. C'est comme, voilà, comme beaucoup de titres d'Asano, faut être solidement armé quand on les lit, en tout cas bien serein dans sa tête, faut pas être dépressif, parce qu'il fout vraiment les jetons parfois, dans le sens où c'est pas forcément violent trash, dans le sens où c'est vraiment violent socialement, c'est ce qu'on aime beaucoup chez Asano. C'est en ça qu'il est l'un des auteurs les plus pertinents du 21e siècle actuellement dans le monde du manga. C'est à la fois un trait fouillis, un trait précis, graphiquement rien à jeter. En termes de scénario, c'est une critique de la société et c'est un focus sur le mal-être des individus qu'il explore dans tous ses titres, quitte parfois à se perdre. Enfin, je ne boude pas mon plaisir à partager avec vous un auteur plus connu en France pour son travail dans l'animation, Satoshi Kon, l'ancien assistant du génialissime Katsuhiro Otomo. Hayashimo propose les deux tomes de son manga Opus, un manga exceptionnel. Alors Benoît vous en parlait dans l'interview, d'une mise en abîme impressionnante. Alors c'est vrai, quand on lit le premier chapitre d'Opus, on se dit « mais c'est du Otomo, c'est pas possible ». Et après, quand on apprend que oui, il était assistant, bah oui, donc tout de suite ça éclaire beaucoup. Il se détache d'Otomo au fur et à mesure des chapitres dans Opus. Il faut savoir également que Opus n'a pas eu de fin tout de suite, et que dans le tome 2, qui est le dernier de cette mini-série, les éditeurs japonais, et du coup l'éditeur français, proposent les croquis préparés par Satoshi Kon pour proposer la fin exacte de cette série, qui est vraiment une série sur la création, sur la vie également, parce que du coup cet auteur doit faire face à des personnages qui ne veulent plus mourir dans l'histoire. Quand ils l'apprennent, du coup, ils vont se rebeller. Donc, un personnage secondaire important qui va, lui, se lancer dans une course-poursuite par rapport à son créateur dans l'intégralité de la BD dans laquelle ce dernier vient de tomber. C'est original. C'est un questionnement sur l'auteur, sur la création. Et graphiquement, c'est superbe. Alors, je ne vais pas détailler l'intégralité du catalogue de chez Hayashimo, parce que il est très long, il est très varié, il est très fouillis, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas que du manga également. Si vous allez faire un tour sur le site de Hayashimo, il y a des livres jeunesse, il y a tout en fait. Il y a des livres également, ce qu'on pourrait appeler des beaux livres, comme le guide du thé japonais, le saké de A à Z. Vous pouvez également trouver des livres qui ont rien à voir avec la galaxie du manga, comme Robespierre, les femmes et la révolution de Claude Guillon, qui est un très très bon bouquin. On a également de la bande dessinée, il y a de tout. C'est très varié, je vous invite vraiment à aller découvrir la variété extrême, parce qu'il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, il y en a pour les ados, il y a du guide cinéma, il y a de la cuisine, jeunesse, tourisme, il y a plein de choses chez Hayashimo. Et c'est une maison d'édition qui serait vraiment très très intéressante à voir diffusée dans les espaces culturels, à voir dans les médiathèques également, parce que si vous vous rappelez le podcast consacré à la journée manga à Ruffec, où les organisatrices m'avaient parlé également de Hayashimo, la libraire de Ruffec m'avait parlé également de cette maison d'édition, elle s'était tombée sous le charme de différents titres. Elles ont bien eu raison, parce que c'est un passionné qui a fondé cette maison d'édition. C'est quelqu'un qui, du coup, s'y connaît vraiment. Benoît Maurer, c'est pas quelqu'un qui va chercher le gros hit commercial pour avoir une grosse locomotive. Il va pas négocier des mois et des mois pour choper le dernier hit du Shonen Jump. C'est quelqu'un qui a une vision artistique. C'est quelqu'un qui aime ses auteurs. C'est quelqu'un qui aime le manga, qui aime la culture japonaise, qui veut la faire partager et qui, du coup, se sert de son savoir culturel pour essayer de le transmettre au plus grand nombre. Et c'est ça qu'on aime dans le manga en France. Chers amis, il est temps de se quitter. Je tiens à remercier une dernière fois Benoît Maurer de m'avoir gentiment accueilli sur son stand. Je tiens également à vous remercier de m'écouter et de me suivre sur PodCloud. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt !